Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de Fée, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous êtes en compagnie de Nicolas.
Jenny.
Et François.
Et François, et cette semaine, on va vous parler de la semaine de la dignité des personnalités sociales du 1er mai.
Vous parlez aussi des camps de travail qui sont en augmentation en Corée du Nord, puis plus de 1000 manifestants qui ont arrêté en série depuis samedi.
Alors, on va aussi avoir une entrevue avec un certain Guillaume, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Blocs d'écrivains anarchistes de Montréal. Et puis, ils vont sortir un bouquin bientôt de nouvelles, un recueil de nouvelles qui s'appelle Subversion.
Tout ça à voix de fée dans la prochaine heure. Mais on va commencer avec une pièce de Ben Dirman. En fait, c'est un artiste subversif révolutionnaire tunisien. On dit que c'est le Brassens de Tunis.
On va écouter ça sur voix de fée.
خد واكد قومي مش مستلقيني حبيبة 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 شام 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 حلي الرايونو بالك شدريني نرتع في بار التاليان يا بنيا سكوزا ابرس العزوزة حبيبة 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 شام 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 كيفين باي بيلي من لمبادوزا صغرت وادعي للرحمن روح بالباكو واللمبرجيني حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو تشاو ما نغمض غيني كان ما تصافيني جيبلك في عرسك بنتي الما لو كرينا شنا بعينينا حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 لو كان غرغنا متنا بلاد فينا روحي ترجع لك عمان ما كنتش ناوي نعطيها قلبها حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 كنموش الغلبة ونعيش الكلبة سكروا في وجه البيبان راني مخنوق بالبوت الليس حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو 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 نروح في صندوق يا إما عريس نرجع لبلاد البوليس
تيامو حبيبة
Et malgré la pluie, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont participé aujourd'hui à l'action nationale de la 38e semaine de la dignité des personnes à cité sociale. Les auditeurs et les auditrices attentifs et attentives, enfin bref, ceux qui nous écoutent souvent auront reconnu les slogans, hein? C'est quelque chose de connu dans la région de Québec. N'empêche, 300-400 personnes, peut-être un peu plus même, malgré la pluie. Donc, comme je le disais, pour manifester sur le thème « l'aide sociale, c'est pas un choix, l'aide sociale, c'est un droit » et « on y a droit ». Évidemment, tous les commentateurs de droite qui sont sans cœur et sans expérience de la vie vont probablement encore sortir des niaiseries sur ce type de manifestation-là, qui se trouvent une job, là, vous faire à l'âge de leurs préjugés et tout et tout et tout. Alors, pour la forme, on est quand même dans une société un peu débile, là, qui impose une barbarie, en fait, à ses membres les plus mal pris, parce que encore aujourd'hui, en 2011, on donne un chèque de $574 par mois aux personnes jugées aptes au travail, entre gros guillemets, On espère qu'ils vont survivre avec ça. Ils vont avoir le temps de se trouver quelque chose, qu'ils vont avoir le temps de sortir donc de leurs difficultés. Évidemment, dans les faits, avec ce système-là, le gouvernement condamne la plupart de ces personnes-là, finalement, qui réussissent pas à se retrouver rapidement un emploi, à devenir tout aussi rapidement, finalement, inaptes au travail, ou alors aptes à travailler au noir, parce qu'on les maintient dans une pauvreté extrême. Et évidemment, c'est pas avec ça qu'on va aller chier loin. Et donc, le Front commun des personnes à cité sociale du Québec, ça c'est l'espèce de regroupement qui organise la manifestation aujourd'hui. Eux, ils revendiquent l'abolition des catégories aptes et inaptes à l'aide sociale. Et ce sera bien un minimum, en fait, parce que ça voudrait dire donner le même chèque de 873 $ par mois à tout le monde et compenser les frais liés à une limitation fonctionnelle. Faut quand même dire, là, comme le faisait ce matin le collectif pour un Québec sans pauvreté, que ce montant-là de 873 $ par mois pour les personnes seules, c'est un montant qui permettrait toujours pas aux personnes de réaliser leur droit à un revenu décent, ni même de couvrir leurs besoins de base. Hein, si on l'a vu il y a quelques semaines, c'est 1050 $ au Québec pour couvrir ses besoins de base, mais ça améliorerait significativement les conditions de vie de centaines de milliers de Québécoises et de Québécois qui sont justement dépendant de l'aide sociale. Donc, pourquoi est-ce qu'on donnerait tout cet argent-là aux gens? Entre autres parce que, outre la question de la solidarité sociale, la redistribution de la richesse, tout ce que vous voudrez, mais aussi parce que l'expérience le démontre, c'est quand on améliore la situation des personnes, notamment en leur donnant un revenu qui a du bon sens, qu'on leur permet de sortir la tête de l'eau, puis qu'on se donne une chance de voir le monde sortir de la pauvreté et éventuellement réintégrer le marché du travail et faire d'autres choses. Et évidemment, maintenir les personnes, surtout les personnes seules dans le revenu... les personnes seules à l'aide sociale, entre 2003 et 2009, leur revenu s'est déprécié de 4,3%, ce qui est quand même hallucinant. Donc, les maintenir dans cette pauvreté extrême-là crée beaucoup plus de problèmes que d'autres choses, que ce soit tout simplement des problèmes de santé, des services sociaux, des problèmes sociaux, bref. Donc, en attendant une loi sur l'élimination des riches et une véritable égalité économique et sociale, le minimum, c'est de soutenir les revendications du mouvement populaire, même si, on s'entend, ce serait pas la mer à boire, ce serait déjà un début. Donc, à bon entendeur là-dessus. Si vous voulez, sur notre blog, on a mis un lien vers un texte d'opinion du Front commun des personnes à cité sociale, « L'humiliation au quotidien », qui a été réalisé dans le cadre de la 38e semaine de la dignité des personnes à cité sociale. Donc, voilà pour ça. On bougerait peut-être vers de la musique. On va éventuellement bouger vers de la musique. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur ce genre de trucs-là, il y a deux sites web qui existent qui sont à ma foi fort pertinents. Il y a entre autres le site j'aurais jamais pensé donner ça en ondes un jour, mais bon, le collectif pour un Québec sans pauvreté qui produit beaucoup de documents et beaucoup d'informations sur la situation et qui fédère la plupart des organisations, pas toutes évidemment, mais la plupart des organisations qui luttent sur le terrain de la pauvreté. Donc le collectif pour un Québec sans pauvreté, vous pouvez trouver ça avec le www.pauvreté.qc.ca. Et si vous voulez voir... Peut-être le site est un peu moins étoffé, mais il y a quand même beaucoup de stocks aussi. Le Front commun des personnes à cité sociale du Québec est comme une espèce de regroupement national des groupes de personnes à cité sociale, ou en tout cas d'un bon nombre d'entre eux, parce qu'ils sont pas tous membres. Vous pouvez aller sur le www.fcpasq.qc.ca. Pensez-y, Front commun personnes à cité sociale du Québec. Donc, fcpasq.qc.ca. Et nous, on s'en va en musique.
Oui, on va écouter une pièce de Mojo Nixon, parce que tu sais que récemment, il y avait des élections. Et puis, c'est les conservateurs qui rentrent.
On avait dit qu'on n'en parlerait pas.
Oui, on n'en parlerait pas, mais là, on en parle. En fait, on va en parler de façon indirecte. C'est le retour des rednecks, c'est le retour des gens de l'Ouest, avec leur shotgun et leur camionnette. Alors, on va écouter une pièce qui s'appelle Redneck Rampage de Mojo Nixon. Oh là 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 là.
Give me a big ugly G, boys. They're red.
rednecks were in caves banging sticks together. They was drinking homemade wine made out of elephant testicles and shit. There was the original redneck back in the caveman Cro-Magnon big dick days. The day that everybody had a big dick. All women had motors in their pussies. Nobody had a job. It was a glorious time on the planet Earth. Are you ready to hear my sideways super psycho girth? I am ready to shout Bama Lama down in Alabama. Are you ready, boys?
Yeah!
Oh!
Marc-Lépine a dû vraiment réfléchir à son acte. Et il l'a dit en entrant à l'école polytechnique à une femme au registrariat. Il a dit qu'il y avait trop de femmes à Polytechnique.
Une des déclarations les plus stupides que j'ai jamais entendues dans la bouche d'une femme d'affaires.
Et c'est des propos qu'on peut entendre aussi, malheureusement, encore aujourd'hui.
Si elle a du succès en affaires, la bonne femme a dit que c'est parce qu'elle est une femme.
Hey. de retour à votre fait sur les ondes de CKL 88.3. Le petit bout de manif qu'on a entendu, c'était dimanche dernier, le 1er mai. Il faisait pas mal plus beau qu'aujourd'hui. On est mercredi, puis il mouille. Et dimanche, faisait beau. C'était le grand soleil. C'était la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Et pour la première fois depuis très longtemps, Québec, il y avait une manifestation unitaire qui était organisée par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Coalition de Québec, Chaudière-Appalaches, donc, qui regroupe 47 groupes populaires, syndicats, associations étudiantes, groupes de femmes, groupes politiques aussi, hein, le collectif Anarchiste la Nuit, notamment, et Québec solidaire. Donc, ben voilà, c'était un rassemblement dans Saint-Jean-Baptiste, sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, qui était précédé par l'école dans la rue, qui était organisée par le REPAC, une espèce de rassemblement avec animation théâtrale, rassemblement pré-manif, pique-nique et compagnie, dont on a un tout petit extrait à vous présenter.
Les cours ce matin, on va commencer par le cours d'économie familiale, parce que le budget Charest accentue et augmente les écarts entre les riches et les pauvres, des mesures qui déjà avaient commencé en 2010. Alors, on a le professeur Mme Claire qui nous éclaire, qui va vous présenter le cours d'économie familiale, et ce sera suivi après avec Mme Iris de Gauche par le cours Alternative 101. En effet, l'école de la rue va être suivie cet après-midi de la manifestation pour le 1er mai, la fête internationale des travailleurs et des travailleuses. À ce moment-là, l'école de la rue va vous amener à une belle visite éducative à l'édifice Price, qui est le lieu de résidence du gouvernement Charest.
C'était Denise Garneau du comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur qui participait au comité d'animation. Donc, il y a eu effectivement des cours passablement théâtraux sur le néolibéralisme et les alternatives. Aussi, ateliers de fabrication de pancartes, de ballons, en fait, gonfler des ballons, pique-nique et tout avec les enfants. C'était particulièrement plaisant. Et puis, à 13h, donc, on s'est retrouvé à peu près à 300-350 à prendre la rue. Donc, la rue Saint-Jean. Pour cette grande manif-là où il y avait plusieurs organisations. Puis bon, là, on peut se dire, là, écoute, 1er mai, Journée internationale des travailleurs et des travailleuses, fête du travail, selon certains même. Pas tout à fait, mais qu'est-ce que les groupes communautaires qui sont majoritairement composés de retraités, de chômeurs et de cités sociaux ont à faire là? Ben, Vania Wright-Larrain du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire nous l'explique.
Toujours plus pour les patrons! En rappelant que la fête des travailleurs et des travailleuses, c'est pas la fête du travail, c'est la fête du monde. C'est la fête qui nous rappelle une fois par année qu'au-dessus de nos têtes, il y a une élite qui fait du profit avec le travail des gens. C'est ça qui est important de souligner aujourd'hui, pas le travail lui-même, mais le monde qui construisent, qui font partie et qui sont la société à laquelle on appartient. C'est ces gens-là qu'on veut représenter aujourd'hui, et c'est ces gens-là qu'on veut amener avec nous dans la rue. Alors les gens qu'on croise aujourd'hui, on aimerait vous inviter à vous joindre à nous, parce que si on laisse se défaire nos services publics, c'est notre héritage qu'on laisse se défaire, et c'est notre qualité de vie.
Donc, c'est notre qualité de vie qu'on laisse se défaire. Bref, le 1er mai, la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses, c'est pas seulement une question de syndicats, de syndiqués. C'est évidemment aussi une question de syndicats et de syndiqués, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et oui, ça a commencé sur la journée de 8 heures. Il y a 1886.
C'est ça, le massacre de Haymarket Square, 1886
à Chicago. Mais ça a pris toutes sortes de formes au travers des années. Il y a même des étudiants qui sont venus. Bon, évidemment, c'est le dimanche, c'est la fin de session. Ils sont peut-être pas venus en aussi grand nombre qu'ils l'auraient voulu, mais qui sont venus. Là, c'est un peu con, j'ai oublié le nom de l'étudiant en question. Je sais que c'est quelqu'un qui étudie à l'Université Laval en philosophie, qui est venu faire un speech, ma foi, très dynamique et enflammé.
On va mettre nos recherchistes là-dessus.
Ouais, c'était devant la siège social de la Caisse de dépôt et de placement, qui est aussi la résidence officielle de Jean Charest à Québec.
Donc, je vais devoir lire, j'ai pas appris mon texte. Les étudiants, on travaille fort en fin de session. En fait, on travaille fort à longueur d'année. En fait,
On travaille tellement fort que chez les 18-25 ans, le taux de burn-out est deux fois plus élevé que dans le reste de la population. Le travail qu'on fait, c'est un travail important. C'est l'effort de transmission du savoir qui permet la survie de notre civilisation. L'Occident en entier est redevable aux étudiants. Il me semble que ça mérite rémunération, non?
Ouais!
Il me semble que la Charte de Grenoble, c'est quelque chose de souhaitable pour le Québec. Il me semble qu'à tout le moins, on ne devrait pas payer pour travailler. Imaginez-vous, payer pour travailler! Est-ce que la gratuité scolaire, comme elle s'applique ailleurs dans le monde, dans beaucoup de pays industrialisés, c'est quelque chose de trop bien pour le Québec? Non! Non! C'est une question de choix! Le choix qu'a fait le gouvernement d'imiter un modèle de gouvernance et de financement des universités, le modèle canadien, un modèle qui compromet l'accessibilité aux études et qui mine la formation universitaire.
Ouais, mais bon. Donc, les étudiants comme jeunes travailleurs intellectuels, on revient à la charte de fondation du syndicalisme étudiant français, qui est revendiquée par quelques organisations étudiantes au Québec, mentionnait brièvement la charte de Grenoble, comme si tout le monde savait c'était quoi. En fait, c'est la charte de fondation de l'Union nationale des étudiants de France, donc l'UNEF, qui est la matrice originale du syndicalisme étudiant dans la francophonie, de quoi s'est inspiré largement le mouvement étudiant québécois, qui est d'ailleurs une forme d'organisation très, très proche de la forme syndicale. Donc, c'est ça, le 1er mai, c'est aussi évidemment les syndicats. Et puis, on va tout de suite y aller avec Anne Gingras, puis je finirai mon blabla après. Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches, qui, de la CSN, qui nous a donné un speech assez rentre-dedans. J'ai enlevé les bouts électoralistes, là, mais c'est pas grave.
Vous savez, Jean Chandelle, avec ses budgets, et Raymond Bachand, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, il n'y a pas d'argent pour l'éducation, il n'y a pas d'argent pour la fonction publique. Lorsqu'on négocie des conventions collectives à tous les jours, peu importe le secteur d'activité, les employeurs n'ont jamais d'argent. Christophe, il voit pas du monde qui ont l'argent quelque part, parce que les corps entre les riches et les pauvres continuent de s'élargir et de s'agrandir. Il y a des gens qui voudront nous faire croire que le choix que nous avons fait il y a 40 ans, le choix d'un bien commun, d'un filet social, c'est une erreur de parcours. Qu'on doit reprendre le droit chemin. L'Éric Duhaime, Joanne Marfat, tous les voix de droite, que ce soit l'Institut économique de Montréal, on doit absolument démontrer et manifester beaucoup plus notre colère, notre indignation, qu'on arrête de laisser la place à ces gens-là. Ce n'est pas vrai qu'ils nous représentent, ce n'est pas notre voix, ce n'est pas notre façon de voir les choses. On n'en veut pas d'une société basée sur le mépris, sur la démagogie, sur l'exclusion. Ce qu'on veut, c'est mettre d'abord et avant tout, miser sur la dignité humaine, sur le respect et sur le respect. Vous invite à ne pas lâcher, je l'ai dit tantôt, arrêtons de laisser la place à ces voix de droite-là. On doit être présent, on doit se réapproprier l'espace public et on doit démontrer que la région de Québec, c'est une région inclusive, c'est une région accueillante et c'est une région qui mise sur la solidarité et la chaleur humaine. Bonne fête des travailleuses et travailleurs à tout le monde.
Et donc, c'est ça. 300-350 personnes au 1er mai à Québec. On était plusieurs à faire... On était 500 l'année passée, on était 250 l'année d'avant. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux, c'est pas. Ce que je sais, par contre, si on regarde ça sur le moyen terme, c'est qu'on est dans une période de transition. Il y a 6-7 ans, il y avait juste les anarchistes puis quelques extrêmes gauchistes qui collaient de quoi le 1er mai. On était 12-13. C'était bien le fun de marcher avec les drapeaux rouges et noirs, mais c'était pas très convaincant. Puis après ça, ben les syndicats ont recommencé à faire des affaires. Ils ont fait des parties de sucre. Ils ont fait des activités sur l'heure du midi. Ils ont fait des pique-niques. Des trucs, en fait, qui leur permettaient de sortir les élus de la colline parlementaire. Parce que quand ils font une affaire sur l'heure du midi, sa colline parlementaire, juste avec les délégués puis les élus, ils se retrouvent à 300. Fait que ça va bien, tu sais, ils font ça comme ça. Mais bon, c'était pas encore so-so. Puis là, depuis, il y a eu des manifestations monstres à Montréal, hein, au début du règne de Charon, on s'en souvient. Puis là, c'est ça, depuis 3 ans, c'est la 3e année, en fait, le REPAC, le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire, s'était réapproprié le 1er mai, puis il faisait un 1er mai communautaire, avec la participation des fois d'une couple de syndicalistes, une couple d'étudiants, mais tu sais, c'était vraiment, vraiment le mouvement communautaire. Puis cette année, on s'était donné comme objectif à la coalition opposée à la tarification, privatisation des services publics, de faire le 1er mai de tous les mouvements sociaux depuis les années 80. Ça faisait plus de 20 ans que ça s'était pas passé à Québec. Puis c'est sûr que, bon, c'est pas tout le monde qui a embarqué. C'est pas tout le monde qui a embarqué aussi fort qu'il aurait pu. Mais bon, ceux qui ont embarqué, ils ont embarqué pour vrai. Il y avait effectivement la CSN qui était là, quelques syndicats de fonctionnaires, quelques associations étudiantes, entre autres celle de Garneau, qui est de toutes les batailles, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde du mouvement communautaire, probablement les 2/3 de manifestation, puis des gens de gauche, des gens de l'UCL, de Québec solidaire, du Parti communiste révolutionnaire, qu'on voyait qu'une fois par année au 1er mai, puis qu'à chaque fois, ils réussissent à passer dans le journal tellement qu'ils impressionnent les journalistes.
Mais même des gens du Parti communiste québécois.
Et même des gens du Parti communiste québécois qui votaient pour le Bloc québécois, nous a-t-on dit. Enfin, bon, bref, on s'est... On s'étendra pas là-dessus. Mais bref, c'est ça. C'est une année de transition. Il faut vraiment le voir comme ça. Et puis, c'est dit un peu maladroitement, un peu de façon tribunicienne, comme dirait l'autre. Mais, Anne Gingras, sur ce point-là, elle a raison. Il faut se réapproprier l'espace public. Il faut redévelopper une culture de mobilisation à Québec parce que visiblement, c'est pas présent, c'est plus présent. Quelques petits groupes qui ont encore une culture de mobilisation, mais je veux dire, honnêtement, là, ça sort pas beaucoup des réseaux, hein. Et donc, il faut redévelopper cette culture-là, il faut redéployer cette culture-là pour réussir à se sortir de la chenoute. Donc, c'est ça. Puis je voulais terminer en disant, hey, le 1er mai, là, c'est pas juste des slogans, c'est pas juste des speeches, c'est aussi beaucoup, 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 beaucoup de fun, puis c'est pour ça que je vous ai gardé cette quote-là. Pour la fin, c'est un petit bout de Tintanar, la fanfare anarchiste. Non, ça, c'est pas Tintanar. Il est pas là, Tintanar?
Après Anne Gingras, ça a l'air d'être la toune.
Merde! J'ai raté mon Tintanar, c'est bien plate. Bon, écoutez, laissez faire ça. On va aller écouter Dropkick Murphy, Which Side Are You On, une chanson traditionnelle du mouvement syndical américain qui me semblait, ma foi, d'actualité. C'est pas ça non plus. Yeah!
Lousy scab, or will you be a man? Which side are you on?
Et de retour à Voix de Fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles internationales qui nous proviennent cette fois de Syrie.
Syrie, ça pour commencer, c'est plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées ces deux derniers jours pour tenter d'enrayer le mouvement de contestation sans précédent contre le régime du président Assad. Il y a eu une intensification insensée des arrestations. Les autorités arrêtent tous ceux qui veulent manifester, a indiqué l'Organisation nationale des droits de l'homme. C'est ça. Puis des militants anti-régime qui ont appelé à des sit-ins permanents à partir de mardi soir dans les villes de Syrie. Selon l'Organisation des droits de l'homme, INSAN, 607 personnes ont été tuées depuis le début de la révolte en Syrie il y a un mois et demi. Donc c'est quand même beaucoup, là. Puis dans une manif de protester, excusez, une banderole brandie par des manifestants dans le quartier de je suis pas capable de dire le nom, là, dans ce quartier à Homme, c'est le nom de la ville. Non à la violence, non sabotage, non chômage, alors que d'autres scandaient pendant Trump, par notre sang, nous sacrifierons pour nos martyrs. À Banias, à 280 km de la capitale, les protestataires sont démordis à un assaut du service de sécurité sur leur ville assiégée, a affirmé un militant des droits de l'homme. Les arrestations de militants soupçonnés d'organiser les manifestations se poursuivent sans interruption dans tout le pays sur la base de liste. Dans le fond, ils ne prennent même pas le monde en flagrant délit. C'est juste ton nom marqué sur une liste, mais tu te fais arrêter.
En fait, c'est les opposants.
Oui, c'est ça. A déclaré à la chaîne France Presse Rami Abdel Rahman, le président de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui est basé à Londres. Pour sa part, Amnar Korabi, président de l'Organisation nationale des droits de l'homme, a affirmé qu'en l'espace de plus de trois jours, plus de 1000 personnes ont arrêté en Syrie, dont la moitié à Deraa et sa province. Le régime accuse des gangs criminels armés ou des groupes terroristes d'être à l'origine des violences depuis le début de la contestation. C'est drôle, mais il ne parle pas de la violence qui est utilisée par le régime. Selon un militant des droits de l'homme à Damas, les jeunes de Deraa, âgés de 18 à 40 ans, qui figurent sur des listes pour avoir participé à des manifestations, sont conduits pour interrogatoire au stade de cette ville, 100 km au sud de Damas. Donc, ils sont à surveiller ça, mais c'est vraiment mal parti. Hein. Puis, je l'ai déjà dit à voix de fait, mais Hugo Chavez appuie ce régime-là. En passant.
Notre ami Hugo.
Puis là, on parle aussi d'une autre très mauvaise nouvelle, c'est les camps de travail qui, en Corée du Nord, qui ont augmenté en taille et en nombre au cours des 10 dernières années. Quelques 200 000 personnes sont actuellement détenues dans des conditions atroces, a affirmé mercredi Amnesty International. Bon, après, ça se compare à les goulags dans l'ère stalinienne, dans le fond, régime de Corée du Nord, c'est le dernier régime stalinien de la planète. Les détenus assistent à des exécutions de leurs compagnons de fortune et mangent des rats pour survivre, indique un rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme, qui se base sur des images satellites et des témoignages d'anciens détenus qui ont fui la Corée du Nord. Les détenus sont forcés de travailler dans des conditions proches de l'esclavage et sont fréquemment soumis à la torture et d'autres traitements cruel, inhumain et dégradant, selon ce rapport-là. Tous les anciens prisonniers des camps de travail de Yodok dans la province de Yamkong du Sud ont été témoins d'exécutions publiques. Puis, si on compare des images satellites récentes avec d'autres qui datent de 2001, puis on se rend compte qu'il y a une augmentation significative de la taille et du nombre des camps. Dans le camp de Kwan Liso 15, des milliers de personnes sont retenues parce que jugées coupables par association ou parce qu'un de leurs proches est loué en prison. Puis, il y en a beaucoup qui ne savent même pas pourquoi ils sont là.
Évidemment.
Ouais.
Puis, selon Jeon Kyung-gil, détenu à un camp de Yodok de 2000 à 2003, a raconté que la journée de travail démarrait à 4 heures du matin et s'est terminée à 20 heures, suivie de 2 heures de rééducation idéologique. Ce qui rappelle la révolution culturelle, dans le fond, pendant le régime maoïste. S'il n'était pas capable de mémoriser les 10 principes éthiques, il n'était pas autorisé à dormir. Seuls ceux qui avaient achevé leur tâche avaient droit à un bol de 200 grammes de grumeaux de maïs et des prisonniers mouraient tous les jours. Meurent de faim, dans le fond, parce que...
Ouais, ben en fait, c'est comme tu dis, sur la fin du régime stalinien, c'est la même chose. C'est même antérieur à la révolution culturelle. Là, je dirais, il y avait des commissaires politiques dans les brigades internationales pour justement être sûr que les gens soient capables de réciter le petit catéchisme révolutionnaire.
Les prisonniers mangeaient des rats ou des graines et retrouvaient dans de la marde d'animaux pour survivre, ajoute le rapport. Un ancien prisonnier de Yoda qui estime que 40% des détenus sont morts de faim en 1999 et 2001. Les autorités ont également recours à des cellules de torture, des pièces minuscules aux détenus ne peuvent ni s'allonger ni se tenir debout. Les policiers y restent au moins une semaine, mais Amnesty International signale dans son rapport le cas d'un enfant qui est passé 8 mois là-dedans. Dans son rapport 2010, les droits de l'homme, le département d'État américain estime en 550 000 et 200 000 le nombre de détenus dans ces camps.
Ouais. Je pense que les régimes coréens, je pense que les deux mots qu'on pourrait qualifier les meilleurs pour les qualifier,
fasciste rouge.
C'est fasciste rouge, sinistre, lugubre, macabre.
Ça rappelle dans le fond les camps de concentration pendant l'époque nazie, c'est même quand les affaires là.
Ouais, ben selon beaucoup beaucoup d'auteurs, les camps de concentration en question étaient basés sur le modèle stalinien en fait. Bon, on n'est pas sorti du bois.
Non.
Je plains les Coréens.
On va écouter une pièce maintenant pour prendre une pause de tout cela et pour digérer. Bon, on a parlé tout à l'heure des conservateurs qui ont été élus majoritairement. La deuxième nouvelle des élections, c'est que le NPD est maintenant dans l'opposition officielle. Il y a des gens qui sont très contents, il y en a d'autres qui sont plutôt critiques.
Hey, d'ailleurs, je peux te faire un commentaire là-dessus?
Ben, certainement.
On n'a pas de blague anarchiste cette semaine, mais je viens d'en pogner une que j'ai trouvée vraiment
bonne. Vas-y.
Alors, la cause des inondations dans la vallée du Richelieu? Les nationalistes qui versent des torrents de larmes et qui bavent et postillonnent contre ceux qui ne pensent pas comme eux et qui, haute trahison, n'ont pas voté comme eux. Je m'excuse, camarade, de m'être égaré, de ne pas avoir compris que nous étions en pleine élection fédérale référendaire. J'étais dans les patates et maintenant je pleure avec vous. Et voilà pourquoi Charest appelle l'armée canadienne, parce que c'est une vallée de larmes nationaliste.
Il faut contenir cette vallée de larmes nationaliste.
Évidemment, c'était pas moi qui étais allé voter, là. Bon. Quand même, je trouve ça très drôle. Je viens de voir ça sur mon réseau social préféré.
Donc, le NPD, la gauche, elle va-t-elle nous sauver? Alors, évidemment, une autre position, c'est qu'on est plutôt critique face à ça. Un autre qui était critique aussi par rapport à ce qu'aux États-Unis, ils appellent les « liberals ». Donc, on pourrait mettre le NPD dans la même gang. C'est Phil Hawk qui a fait une chanson qui s'appelait « Love me, I'm a liberal ». Put to Jack.
In every American community, you have varying shades of political opinion. One of the shadiest of these is the liberals. An outspoken group on many subjects. 10 degrees to the left of center in good times. 10 degrees to the right of center if it affects them personally. So here then is a lesson in safe logic. I cried when they shot Medgar Evers. Tears ran down my spine. And I cried when they shot Mr. Kennedy, as though I'd lost a father of mine. But Malcolm X got what was coming. He got what he asked for this time. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Get it? I go to civil rights rallies, and I put down the old DAR. DAR, that's the Dykes of the American Revolution. I love Harry and Sidney and Sammy. I hope every colored boy becomes a star. But don't talk about revolution. That's going a little bit too far. So love me, love me, love me. I'm a liberal. I cheered when Humphrey was chosen. My faith in the system restored. And I'm glad that the commies were thrown out from the AFL-CIO board. And I love Puerto Ricans and Negroes as long as they don't move next door. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Ah, the people of old Mississippi should all hang their heads in shame. Now I can't understand how their minds work. What's the matter, don't they watch Les Crane? But if you ask me to bus my children, I hope the cops take down your name. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Yes, I read New Republic and Nation. I've learned to take every view. You know, I've memorized Lerner and Golden. I feel like I'm almost a Jew. But when it comes to times like Korea, there's no one more red, white, and blue. So love me, love me, love me, I'm a liberal. I vote for the Democratic Party. They want the UN to be strong. I attend all the Pete Seeger concerts. He sure gets me singing those songs. And I'll send all the money you ask for. But don't ask me to come on along. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Sure, once I was young and impulsive, I wore every conceivable pin. Even went to socialist meetings, learned all the old union hymns. Ah, but I've grown older and wiser, and that's why I'm turning you in. So love me, love me, love me, I'm a liberal.
Subversion, le premier recueil de nouvelles anarchistes au monde, sera lancé lors d'un cabaret le samedi 7 mai à l'Agité. Et ce recueil bilingue est distribué par le Bloc des auteurs anarchistes de Montréal, dont Guillaume Bouchard-Lamontée fait partie et aussi auteur de l'un des textes dans le bouquin. Salut Guillaume.
Salut François.
Alors dis-moi, premier recueil de nouvelles anarchistes au monde, est-ce que c'est pas un peu prétentieux?
Oui, en fait, c'est un peu prétentieux. Par contre, ben en fait, bon, on a fait une bonne recherche pour savoir si on avait des prédécesseurs dans le genre, puis on n'a rien trouvé. Donc, on s'est dit, ben, sans doute qu'on est le premier. Du moins, si on n'est pas les premiers, on est les premiers sans doute à avoir une ISBN.
Donc, d'être enregistré auprès des autorités compétentes.
Oui, voilà, on est reconnu par l'autorité étatique, donc on est très fiers de ça.
Est-ce que vous avez été financé par Fonds d'Action Canada et compagnie?
Heureusement, non. En fait, c'est surtout des associations étudiantes puis de l'argent qu'on a eu grâce à nos cabarets anarchistes qu'on a organisés pendant l'année.
OK, ça aussi, c'est majoritairement autofinancé. Il y a quelqu'un sur notre blog de Voix de fait qui a dit que c'était pas nécessairement le premier recueil. Il parlait, par exemple, de Novella Idéal, mais il disait que c'était probablement la première du mouvement anarch québécois. Est-ce que vous connaissez Novella Réal?
Ben, on a entendu vaguement parler. Mais vraiment, on s'est dit que comme on faisait une grande rentrée dans le genre, ben on allait garder ce titre-là. Mais bon, c'est à ces auteurs-là aussi de défendre leur titre de prédécesseur et de fondateur du genre au Québec. Là.
OK, donc il doit se défendre pour être considéré. Dis-moi, Guillaume, donc tu fais partie du Bloc des auteurs anarchistes. C'est quoi ça exactement?
Le Bloc des auteurs anarchistes, c'est un collectif d'écrivains et d'écrivaines d'origine québécoise ou d'ailleurs, ou très proche du Québec du moins, qui écrivent quotidiennement ou de temps en temps de la fiction anarchiste ou encore de la poésie anarchiste. Et puis, c'est un collectif qui a été fondé au Salon du Livre anarchiste l'année passée en mai.
Donc, c'est tous des gens qui ont participé au Salon du Livre l'année dernière?
Voilà. En grande majorité, oui.
Et puis, comment ça s'est créé, ce bloc-là, ce groupe?
Ça s'est créé de manière tout à fait spontanée. Il y avait une demande dans le milieu anarchiste, puis les écrivains et écrivaines de fiction n'étaient pas très structurés sur le plan de la musique en général, puis de l'écrivage, d'essais ou de textes politiques. C'était très structuré, mais chez les auteurs de fiction, il y avait presque rien. Donc on a décidé de fonder ça. Ça n'a pas pris de temps, en fait, la structuration de ce groupe-là. Ça a été c'était une affaire de quelques heures seulement, puis on a trouvé le nom tout de suite, puis on s'est structuré. Ça a été vraiment très très organique, hein, très organique comme fondation.
Et de tous les gens qui avaient au Salon du Livre anarchiste avec qui vous avez parlé du projet, il y en a 18 qui sont restés pour participer dans le fond au recueil de textes Subversion. C'est quoi les sujets qui sont abordés dans ce recueil-là? C'est des nouvelles sur quoi? Est-ce que c'est... tu parles de fiction. C'est quoi exactement les sujets qui sont abordés?
C'est très divers. On a plusieurs dystopies, dont le texte de Stephen, qui a un petit peu le même nom que notre premier ministre. Heureusement, c'est un pseudonyme, encore une fois. On a une autre dystopie avec la nouvelle signée ici, que j'ai écrite d'ailleurs.
La dystopie, excuse-moi, pour les. C'est quoi exactement la dystopie?
La dystopie, c'est le contraire d'une utopie finalement. C'est l'imagination de quelque chose qui risque de tourner mal.
Genre 1984, là.
Exactement, voilà, c'est un excellent exemple de dystopie. Dans le même genre aussi, on a les livres d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, par exemple. Donc, on a des dystopies, on a aussi des histoires. En fait, la rencontre entre des malades et un psychologue qui tourne un peu au chaos. On a des histoires qui se déroulent entre des citoyens ordinaires et puis des itinérants et itinérantes. Donc, c'est très varié, mais la plupart du temps, ce sont des textes qui tournent autour du thème de la liberté, de la rébellion. Et puis, voilà.
Mais est-ce que vous avez de la science-fiction?
Oui.
Ouais, parce que je sais que on en avait parlé, je pense, sur le blog de Montréal, il y a une certaine époque, il y a plusieurs mois, il y a des gens qui faisaient valoir que dans la science-fiction, il y avait curieusement beaucoup de romans ou de nouvelles qui pourraient être considérés comme libertaires. Là.
Ben effectivement, oui, c'est le cas de plusieurs auteurs. Ben d'ailleurs, on sait que Aldous Huxley avait une certaine sympathie anarchiste. Et puis on a plein d'autres auteurs anarchistes comme par exemple. Je ne sais plus son nom, tout à coup ça m'échappe, mais c'est elle qui a écrit Earthsea et Les Dépossédés. Je ne sais pas si elle dit quelque chose. Donc, une auteure d'ailleurs à qui on avait demandé de faire notre préface, mais elle ne nous a pas réécrit. Et puis, ben voilà, donc la science-fiction, en effet, c'est un débouché immense pour la fiction anarchiste.
Alors là, Guillaume, c'est un recueil de textes, et je t'ai demandé de choisir un extrait qu'on pourrait lire à la radio. Est-ce que t'es prêt?
Oui. Comment ça tout de suite? C'est un extrait de la nouvelle À celui que tu viens de défendre, qui a été écrite par Mathieu Blais et Joël Casséus. C'est deux auteurs qui ont déjà publié, entre autres, le roman Zippo. Voilà, qui est assez récent d'ailleurs. Donc ça commence comme suit. Sur le lit, il n'y a plus de drap. Une mallette et un veston qui ne t'appartiennent pas, déposés dans un coin. Des verres et des bouteilles vides, un cendrier plein. Tu ne parles toujours pas, mais il faudra bien que tu me dises quelque chose. Un petit rien. L'arme a glissé de ta main et est tombée sur le plancher. C'est le deuxième son qui nous sépare depuis que je suis entré dans la pièce. Moi et toi, il y a un cadavre sur la 32e avenue. Quelque part où nos désirs se rencontrent, nos corps gravitent l'un vers l'autre. Près du centre commercial et de l'endroit où tu cherchais du boulot, il y a un cadavre qui traîne par terre et te bat sur les pieds. Il fait de plus en plus chaud. Il fait lourd. Une humidité touffue et ancienne inscrite dans les murs. Sans aucune trace de fraîcheur, sans la moindre brise. Tu as repris les cheveux gluants dans ta main et tu as soulevé la tête. Tu veux que je voie son visage. Voilà.
Donc, le chômeur qui tue quelqu'un, qu'est-ce qui s'est-il passé? Si les gens veulent le savoir, ça va se trouver dans le recueil de Subversion. Super. Et pourquoi avoir fait ce recueil exactement à l'origine?
C'est pour montrer premièrement que justement les anarchistes en général ne faisaient pas qu'écrire des essais ou faire de la musique punk. C'est des artistes de tous les genres, des artistes multidisciplinaires. D'ailleurs, j'ai rien contre la musique punk, j'en écoute quotidiennement. Mais bon, c'est une autre affaire. Il y a beaucoup d'artistes multidisciplinaires chez les anarchistes, beaucoup d'auteurs de fiction aussi, de poètes. Et puis c'est à eux et à elles qu'on voulait donner la parole à travers ce livre-là, Subversion.
OK. Donc, c'était pour prouver, dans le fond, quelque chose, en quelque sorte. Il y a 18 personnes qui participent au recueil. Est-ce qu'il y a des auteurs bien connus?
Il y a des auteurs qui ont publié beaucoup. C'est pas des auteurs qui ont écrit énormément de best-sellers, mais par exemple, Normand Narocki a écrit beaucoup de livres et puis a également participé à la production de disques. C'est une personnalité quand même qui est assez connu dans le milieu. On a Bruno Massé aussi qui a écrit plusieurs romans, dont plusieurs de science-fiction d'ailleurs. Il y a Cara Hoffman, je pense, qui est une auteure qui a écrit un livre, So Much Pretty, en fait. Je suis pas certain que c'est elle, mais je crois que c'est elle. Et puis, il y a Mathieu Blais et Joël Cassius aussi qui ont écrit des livres. Et puis, les gens qui ont fait la préface, parce qu'il ne faut pas les oublier eux non plus, c'est deux auteurs anarchistes qui sont assez prolifiques, là. Monique Sorel-Turpin, et puis Derek Jensen, qui est l'auteur d'ailleurs de Endgame, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un livre très bon en anglais, et qui est très anarchiste également.
Super. Donc, Guillaume Bouchard-Labonté, rappelez les dates, dans le fond, du lancement du recueil de nouvelles.
Oui, c'est le 5 mai à Montréal, à 17h. C'est un 5 à 7, c'est à la Casa del Popolo. Et puis, à Québec, chez vous, c'est le 7 mai. C'est encore un 5 à 7 et c'est à l'AJP.
Donc, lancement de Subversion. Et notez aussi que Norman Nawarki va être présent mardi 7 juin à l'AJT avec sa conférence « Sexe avec un anarchiste, un pénis de 7 pieds vous donne des leçons ». Il va sûrement être aussi, justement, le 7 mai à l'AJT pour le lancement de Subversion. Je te remercie beaucoup, Guillaume.
Mais merci à vous.
À la prochaine et bonne chance pour votre lancement.
Merci.
Sinon, ben, on va écouter une pièce, justement, de Norman Nawarki qui participe à la rédaction du recueil, une pièce de « Rhythm Activism ». Qui s'intitule The Magan Brothers.
They say down in Mexico on a moonless night, when coyotes wail into the void and owls give the signal, the Magan brothers will ride high across that desert sky, lassoed to the brightest shooting star. They say the Magan brothers, armed with guns and typewriters, books and bullets, will drop into the saddles of two great white horses and lead a column of the poor north from the Chiapas to the Rio Grande, all shouting, Tierra y Libertad!
Oh boy. C'est ce qui met fin à cette édition de Voix de fait. L'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de Sequoia 88.3. Vous pouvez visiter notre blog, Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Et vous pouvez aussi aller vendredi dans un Pestac bénéfice. La dernière fois que j'en ai parlé, je me suis mis le pied dans la bouche, alors je vais laisser François en parler.
C'est un 5 à 7, ça va être... c'est Tamara qui invite DJ Project, Mathieu Fizet et VM. Ça va être vendredi 6 mai à la Ninkasi du Faubourg. C'est 10$ et puis on vous offre, étant donné que vous êtes sage, deux billets gratuits. Vous avez juste à appeler 529-90-26.
C'est un show bénéfice pour?
C'est Sequoia. Puis évidemment, c'est important de supporter cette station communautaire indépendante qui est gérée de façon autogérée depuis des semaines. Alors, le moins qu'on... encourager Sequoia. Bon, voilà. C'est le mot qu'il fallait dire. Puis sinon, je pense que c'est tout. Fait qu'on se dit à la prochaine. Vous êtes en compagnie de...
Nicolas.
C'est moi qui va le faire cette fois-ci. Janie et François.